Ce soir, on va continuer l'étude de la semaine passée sur les villes de refuge. On a vu trois villes la semaine passée, on va voir les trois autres villes ce soir. Et on sait que les villes de refuge étaient données pour un meurtrier qui avait tué son prochain involontairement.
Amen.
Et j'aimerais juste vous lire vos huit de 1 à 4 pour vous expliquer comment ce meurtrier-là était accueilli à cette ville-là. L'Éternel parla à vos yeux et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous ai ordonné par Moïse des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge comme contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son corps aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville. Et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Le meurtrier, il est accueilli à l'entrée de la ville par les anciens. Et on sait que les anciens, les sacrificateurs faisaient partie des anciens. Et on sait que Christ, c'est notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Que le meurtrier est accueilli à la porte par le souverain sacrificateur qui lui donne la demeure. Et quand il vient à Christ, on est accueilli. Et lui donne le refuge qu'on a besoin.
Amen.
Et si vous remarquez, il dit aussi, ils lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Ils prennent et ils restent avec nous autres. Tu sais, parce que moi j'aime penser, je suis convaincu, tu sais, il n'est pas jugé ce
refuge.
Il n'est pas gardé là-haut parce qu'il vient de tuer quelqu'un volontairement. Il est pris par les anciens. Et en fin de soirée. Comme Christ a pris soin de chacun d'entre nous quand on est allé. On a trouvé refuge en Christ et a pris soin de nous. On fait un petit rêve, pour votre duo, récapitulation des trois villes de refuge qu'on a vues la semaine passée. Celle que Moïse a établie à l'est du Jourdain, autrement dit, sous des filles du Jourdain avant d'entrer en terre promise. La première ville est celle de Bethsaïde. Le désert signifie forteresse éloignée. Et le fait qu'elle s'appelle forteresse éloignée, parce que si vous regardez dans les maps, dans notre couvert de ville, on les a, les villes de refuge. Tu as Golan, tu as Ramat, tu ne me trompes pas, puis tu as le désert qui est plus loin. Et les deux sont également comme propre, mais le désert est éloigné des deux autres. Bethsaïde a cette signification parce qu'elle était éloignée des deux autres villes de refuge, justement de Ramoth et de Golan. Cette forteresse éloignée, ce refuge, n'était pas que pour les enfants de Sèvres, mais aussi pour l'étranger au milieu d'eux. Donc, le 35, verset 15 nous dit, ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. L'étranger, ici est une figure de nous, les païens, ceux qui sont trop loin. Parce que nous, on faisait pas partie du peuple d'Israël. Les promesses, les alliances, les miracles, c'était pas pour nous, c'était pour Israël. Nous, on était éloignés de ces choses-là. Mais parce qu'on était éloignés, Dieu pour vous paraît une forteresse là-bas pour nous. Acte 2, verset 39 nous disait, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, ça c'est nous, ça, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et Éphésiens 2, 17 disait, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient prêts. Ceux qui étaient prêts, c'est Israël, ceux qui étaient loin. C'était nous. Mais Dieu trouve une forteresse pour nous. Bethsaïde était dans le territoire de Ruben, qui signifie voici un fils. Et Matthieu 1, verset 23, nous disait, « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce fils, sa forteresse sont une image de Christ, le seul refuge à venir, tant pour Israël que pour les païens. La deuxième ville était Ramoth, qui signifie auteur, lieu et lui. Et Jean 12, verset 32, nous disait, Et moi, qui avais été élevé de la terre, attirerai tous les hommes à moi. Auteur, lieu élevé, Christ sur la croix, au Mont Calvaire. Ramoth était dans le territoire de Gad, qui signifie bonheur heureux. Et le psaume 23, verset 6, nous disait, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Christ est mon bonheur et ma joie dans laquelle je me retrouve. La troisième ville était Golan, qui signifie leur captivité, passage, exode. Et par cette signification-là, on voyait que ça parlait du peuple hébreu, de leur captivité en Égypte, de leur passage au travers de la mer Rouge, de leur exode dans le désert. Mais moi, sur le mot que j'ai aimé arrêter, c'est tout passage. Parce que passage, ça veut dire action de passer. Tu fais juste passer, tu restes pas là. Et Golan, comme les autres villes de refuge, n'était qu'une ville de passage. C'est le meurtrier s'en allait là, qu'est-ce qu'il n'a pas dans la vie, à la mort du sacrificateur, pour être tourné dans sa maison. Que Golan, pour moi, c'est ça, c'est une ville de passage. On n'est que de passage. Et nous aussi, ici bas, on est, comme Pierre dit, en pèlerinage. On n'est que de passage.
Amen.
Un jour, on va retourner à la maison.
Amen.
En attendant, nous sommes de passage et nous sommes dans ce refuge qui est Christ. Amen. Et Golan était dans le territoire de Manassé, qui signifie qui fait oublier. Et j'aime penser que ce meurtrier-là, qui s'en allait dans la ville de Golan, qui était le passage, il s'en allait là pour oublier. Tu sais, il venait de tuer quelqu'un involontairement. Il s'en allait pas là pour se faire rappeler, par les anciens surtout, par ceux qui étaient là. Il s'en allait là pour oublier. Tu sais, tous les années, j'en connais ça. Ça aide à changer quelqu'un à oublier. Et Christ a fait la même chose, Dieu a fait la même chose avec nous quand on est venu à lui. Michée 7, verset 18, nous dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du réel de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours quand il prend plaisir à la miséricorde. C'est quand on est venu au Seigneur, quand on est venu à ce refuge qui est Christ, Dieu, Christ, a oublié les péchés, les effacés. C'est le but de sa venue, il est mort pour ça. À la croix, il est mort. Crucifié-le à la croix. Que lui, s'il les oublie, on doit les oublier. Tu sais, quand on va à Dieu pour demander pardon à Dieu, là, ben on doit étonner puis s'en débarrasser. Parce que lui, il oublie. Mais quand il oublie, tu sais que l'être humain est dur à ça, on demande pardon, puis on dirait qu'on est en train d'y partir encore. T'sais. Mais non, donne-y à Dieu. Fais-y confiance, puis il est fidèle juste pour vous pardonner. Fais-y confiance, puis dis-lui ça qu'il est. Maintenant, on arrive aux trois autres villes de refuge qui sont dans le pays de Canaan. On voit ça dans l'Ombre 35, verset 14. L'Ombre 35, verset 14. Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. On va aller dessus dans la première. Ça, pour les villes de refuge, ceux qui veulent les voir, là, allez prendre vos yeux et les mains. Le chapitre au complet, on touche les villes de refuge. Le chapitre au complet. La première, c'est Kadesh, qui signifie lieu saint consacré. Et quand le Seigneur fut présenté par ses parents au temple, qui est un lieu saint, la parole de Dieu, selon la loi, s'est accomplie. Luc 2, verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle bon-aimé sera consacré au Seigneur. Christ en lui-même est un lieu saint, consacré par Dieu pour le refuge de l'homme pécheur. Kadesh était dans le territoire de Naphtali, qui signifie lutte, mon combat. Et la lutte et le combat de Christ en fait une mission de trouver refuge a été sur la mort. Christ a vaincu la mort. 1 Corinthiens 15, verset 57 et 50, verset 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. La deuxième ville était Sichem, qui signifie épaule exaltée. Et dans Isaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Exalté soit Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous trouvons une épaule, un refuge pour se reposer. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, a dit Seigneur dans Matthieu 11, verset 30. Vous savez, un joug, on porte ça sur les épaules. Christ l'a porté avant. Puis il dit, prenez-le maintenant, parce que Dieu, qui a porté nos péchés. On peut prendre le sien, il est doux, apporté. Amen. Et Sichem était dans le territoire d'Éphraïm, qui signifie double portion. Et quand on dit double portion, ce qui lui vient en tête, c'est Élisée.
Amen.
Élisée a reçu d'Élie une double portion de l'Esprit. Et c'est ça qu'a demandé à Élie. Ça, vous voyez ça dans 2 Rois 2, verset 9. Donc, double portion, pour moi, ça s'associe à l'Esprit. Parce que Élisée avait besoin d'une double portion, parce que c'est ce qu'il a demandé à Élie d'avoir une double portion sur lui. Et dans Jean 3, verset 34, c'est Jean le Baptiste qui est en témoignant et qui dit, car celui que Dieu a envoyé, en parlant de Christ, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Autrement dit, Christ était rempli d'esprit. Il n'y avait pas juste une double. Il était rempli à pleine bombe. Il n'y avait pas de mesure de l'esprit. L'esprit était là en pleine capacité. Et la troisième ville, la troisième ville était Hébron, qui signifie association, union, lien, amitié. Beaucoup de significations, mais c'est ce que ça signifie. Mais ces quatre significations-là ont une chose en commun, c'est que c'est un regroupement de personnes qui travaillent pour la même cause dans une amitié fraternelle.
Amen. Mm-hmm. Et
puis, ça commence à vous le dire.
Amen.
Et l'exemple que j'ai pu trouver, on voit ça dans Galates 2, verset 9. C'est Paul qui parle, il dit, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la même association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Si on prend Jacques, Céphas et Jean, c'est des disciples. Paul, Barnabas, des apôtres. Mais ensemble, pour l'œuvre de Christ, se sont donnés la main droite d'association parce qu'il y avait la cause à cœur. Il y en a un groupe, si vous voulez, qui est parti pour les païens, l'autre groupe pour Israël, en témoignage. Mais ils sont d'accord sur le travail de l'œuvre. Et c'est ça que les bois représentent une association, une union, une idée amitié. C'est de travailler ensemble pour l'œuvre de Christ. Pour une même cause, surtout. Et puis, la cause qui concerne les lits, c'est l'œuvre de Christ. Le Seigneur a dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans Matthieu 18, verset 20. C'est là où deux ou trois sont unis, Christ est au milieu. Et Christ est le principal formateur de cette association, de cette union dans une amitié fraternelle. Hébreux 2, verset 11, nous dit, car celui qui sanctifie, Christ, et ceux qui sont sanctifiés, nous, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Christ a formé une grosse assemblée, une grosse association, une grosse union qui est liée. Et ça s'est fait selon la parole de Dieu, pas selon l'homme. L'Église fonctionne
selon Dieu.
Amen.
Et elle doit fonctionner selon Dieu, selon son plan.
Hébron, pour moi, comme je vous ai dit, est une image de l'Église de Christ aujourd'hui. Et si on voit dans Zacharie 6, le verset 12 et 13, en parlant de l'union, vous savez, j'avais dans la tête quand on parlait de l'union, c'est une union. Quand tu travailles, c'est une union. Mais tu vois l'union de l'homme, comment ça marche? C'est tout le temps de la chicane, c'est tout le temps des points de vin, c'est tout le temps, c'est là. C'est une union, mais c'est une union fondée par l'homme. Mais tu vois l'union que Christ est établi. Regardez ce qu'il nous dit dans Zacharie 6, verset 12 ou 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Jeanne, par le Christ. J'aimera en son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Une parfaite union. Ça, c'est la manière dont Dieu établit. C'est parfait. Selon la parole de Dieu, c'est l'homme qui a corrompu ou c'est l'homme qui divise. Mais selon le plan de Dieu, l'Église de Christ est parfaite. Et Zacharie 11, verset 7, continue en disant: alors je me mis à paître les brebis destinées à la bouffée, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris deux houlettes, j'appelais l'une grande et j'appelais l'autre union, et je fis paître les brebis. Tu sais, Christ paît les brebis avec grâce et avec union, dans l'unité. Parfait. Ça, c'est Christ. L'homme, pas même qui agit, mais Christ, c'est le même qui agit. Et c'est le même qu'on le voit au travers de la parole de Dieu. Et de nombreux exemples, c'est le même que Christ a aimé. C'est le même qui en prend soin. C'est le même qui dit quoi, selon le modèle que Christ nous a laissé. Hébron était dans le territoire de Juda, qui signifie louant, qui est un soit loué. Et dans Apocalypse 5, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sous, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oui, que Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Sauveur, pour cette grande œuvre rédemptrice envers l'homme pécheur et pour ce refuge en Christ. Dieu les a envoyés. Dieu les a envoyés concernant les villes de refuge dans Deutéronome 19, verset 2 et 4, de 2 à 4. Tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été exactement son ennemi. Dieu nous a envoyé, tu établiras des routes. Cette loi s'applique au meurtrier. C'était une loi d'établir des routes. Et si Dieu a dit d'établir des routes, c'est des routes. Ce n'est pas des grilles en travers bois, des coulées, des montagnes. Parce que, dites-vous une chose, le meurtrier voulait s'enfuir là pour sauver sa vie. Parce que le vengeur du sang poursuivait. Il ne fallait pas qu'il s'écarte. Dieu dit, établira des routes. Et si vous regardez, elle m'a dit, vous regardez ça, mais là, dans les sont placés, là, sont vraiment une au-dessus de l'autre, il n'y a pas une là. Ils sont tellement alignés. Ces deux côtés sont tellement alignés. Que les routes vont être pas mal dans une voie. Parce qu'il faut que notre vie se pose dans une ville. Il ne faut pas qu'il perde son temps en chemin. Il faut qu'il s'écarte. Il faut que le chemin soit praticable et qu'il puisse se rendre à la ville de refuge. Mais vu que c'était une loi, le Kaiser, c'est pas, tu prends pas de route, tu prends du train, mais non, non. Tu établiras des routes. Cette loi s'appliquera au meurtrier. Il faudra que tu établisses des routes absolument pour le meurtrier. Là. Et les routes ici, qui conduisaient aux villes de refuge, moi, je les compare à la loi qui aide le conduit à Christ de ce refuge. Galates 3, verset 24, nous dit, ainsi la loi, les routes, c'est une loi. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et le meurtrier qui empruntait ces routes-là, qui étaient faites selon, après l'ordre de Dieu, parce que Dieu avait dit, tu établiras des routes, et c'est une loi. J'aime imaginer que ces routes-là représentent la loi. Parce que la loi nous conduit à Christ. Et ces routes-là étaient là pour conduire le meurtrier aux villes de refuge. Et c'était une loi. Il n'y avait pas encore sa beauté. Il n'y avait pas pris notre grain. Il est en dehors. Il fallait qu'il respecte la loi, puis qu'il va en entrer. La route fait exprès pour ça. Dieu avait déjà Moïse auparavant, dans Exode 21, versets 12 et 13. Tu sais, l'aucune dans Exode. Ça, c'est bien avant que les villes de refuge arrivent. Les villes de refuge sont arrivées dans Nombre 35. On les trouve dans Deutéronome. On les trouve dans Josué. Mais là, Moïse, Dieu avait déjà Moïse auparavant, dans Exode 21, versets 12 et 13. Il dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé dans la bûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Dieu dit à Moïse va pouvoir venir le refuge. Va pouvoir le sort. On n'est pas arrivé là, on est dans Exode, les villes de refuge sont à bien dans l'ombre. Je t'établirai un lieu. Dieu parle ici au futur de Moïse en lui faisant une promesse. Les villes de refuge étaient à venir, tout comme Christ, le seul refuge à venir pour l'homme pécheur. Mm-hmm. Dieu a pourvu et pourvoira toujours. Mm-hmm. 1 Pierre 1, verset 20 et 21 nous dit, prédestiné avant la fondation du monde, en parlant de Christ, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Et on sait que l'espérance a été le seul refuge qu'on a saisi. C'était ça, cette espérance-là qui nous a été proposée, qu'on a lue dans les deux commencements. Moïse détermina trois villes de refuge à l'est du Jourdain. On a vu ça dans Deutéronome 4, versets 41-43. Et Josué détermina les trois autres à l'ouest du Jourdain dans le pays Canaan, et confirme les trois autres à l'est, dans Josué 20, verset 8. Trois villes de refuge sous Moïse, et trois villes de refuge sous Josué. Nous savons que Moïse représente la loi, et que Josué est une image de Christ. Ces sept villes de refuge étaient pour un meurtrier qui aurait tué quelqu'un involontairement. Ce meurtrier pouvait être un enfant d'Israël, un étranger, ou pour celui qui demeure au milieu d'Israël, comme on l'a vu. Autrement dit, peu importe l'origine de la personne, du meurtrier, que tu sois juif, grec, ou païen, des nations, que tu sois sous la loi ou non, ou sous l'aide de la grâce aujourd'hui, parce qu'on est sous l'aide de la grâce aujourd'hui, tous sont coupables devant Dieu à cause du péché. Et tous ont besoin de se réfugier en Christ, de se refuge. C'est que ces six villes de refuge préfigurent un abri que le pécheur trouve en Christ face au jugement, face au vengeur du sang. Que tu sois sous la loi des pauvres du Moïse, ou que tu sois sous la grâce, oui, parce que vous devez représenter avec le mouvement de Christ, les deux avaient besoin de se réfugier dans les refuges. Parce que c'est Christ qui est refuge. C'est pas la loi, c'est pas les œuvres, c'est pas la bonne conduite, c'est Christ. Romains 8, verset 1, et les versets 33 dans lesquels nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. qui est condamneur? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il est personne pour nous. En plus d'être un refuge, c'est un avocat. Donc on est à la vie, frère, ça. Mais il faut se réfugier en Christ. Il faut se réfugier en Christ pour avoir cette assurance-là. Qu'on est bien protégé, qu'on est à l'abri du vengeur, tout ça. C'est bon. Un coup en Christ, un coup qu'on est sauvé, on sait qu'on ne meurt plus, qu'on ne meurt plus. Même si notre chair va mourir, on ne meurt plus. C'est le corps de vous qui nous attend nous.
Amen.
Et ça, c'est parce que c'est l'espérance que le refuge nous donne. Devons-nous demeurer dans ce refuge? Nombre 35, verset 26-28 nous dit: si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Si on prend comme exemple, on en avait parlé pendant l'étude de ce passé, si on prend comme exemple quand Israël a sorti d'Égypte, puis qu'on s'est levé la porte, qu'est-ce qu'on avait dit? Dieu avait dit d'y voler la porte, l'anneau, de mettre le sang sur les deux poteaux, puis sur le linteau. Puis quand le destructeur passerait dans la ville, s'il voit le sang sur les deux linteaux, sous le poteau, il ne détruira pas. Vous êtes à l'abri. Mais pour ça, il faut que tu sois en dedans. Il faut que le destructeur voit le sang qui passe au-dessus. Mais c'était un peu comme ça ici, la ville de refuge. Tu es en dedans, il n'y a pas de problème. Même si tu vas avoir du sang, il se promène dehors et ça fout.
Une fausse ville.
Même s'il promène dehors, il est dans la ville, il espère qu'il sort. Tant que tu es en dedans, il n'y a pas de problème. Mais si tu sors, puis le vengeur de sang te tue, il n'est pas coupable. Parce que c'est toi qui as trouvé ça à ta place. C'est toi qui as sorti. Comment je peux sortir du refuge? Tu vas me dire, si j'ai trouvé le refuge en Christ, parce que je suis sauvé, n'est-ce pas? Bon, je ne peux pas faire mon salut, n'est-ce pas? Donc, si je suis dans ce refuge qui existe, comment je peux sortir et me faire attraper? Le seul exemple que j'ai trouvé, c'est un bon exemple. C'est dans Hébreux 10, verset 29 et à 31. L'écrivain dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et sauvé de l'Église? On nous disait qu'il aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera ton peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si je quitte le refuge, quitter le refuge, c'est quitter Christ. Comment je peux quitter Christ? C'est de nier son existence, c'est de nier son sacrifice. C'est de fouiller au pied, de s'en aller. Comment c'est plus croire? Je ne sais pas comment ça peut arriver, mais on le sait, il y en a qui ont quitté, il y en a qui ne veulent rien savoir, mais s'ils sont vraiment sauvés, ils vont rendre compte. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que si tu foules au pied du Saint-Christ par lequel tu as été sanctifié, autrement dit, tu manifestes ta main, tu ne crois pas à ça. C'est simple, des foutailles, ça fait 30 ans qu'on attend par l'avènement, puis ça n'arrive pas. Qui dit que c'est vrai que c'est par la confession qu'on est sauvé, ça se met par les œuvres, tout le monde aime le Seigneur. Tu sais, là, qu'est-ce qu'on entend dans le monde, puis comment on peut voir ça? Puis bien, on va suivre la gang. C'est pas nécessairement l'Église baptiste qui sont sauvés. C'est pas l'Église baptiste qui sont sauvés. C'est selon le plan de Dieu. C'est selon le plan de Dieu que le salut est offert. Il n'y a pas de nouveau salut, il n'y a rien qu'un. Il faut respecter ça. Mais si tu sors en dehors de ça, tu as été sanctifié par la sanctifié, tu as été sauvé, mais tu bannis ça. Attends un peu que c'est Dieu qui a son peuple. Puis si tu sors et que tu abandonnes tout ça, n'est-ce pas que tu meurs spirituellement? Il ne faut pas rien que c'est vivant pour Dieu. Tu meurs spirituellement. Il y a une différence. Tu ne me trompes pas. Soit dans Corinthiens ou Thessaloniciens, je ne veux pas trop. Je sais que vous allez vous rappeler de cet exemple-là. C'est Paul qui parle à l'Église. Soit c'est Corinthiens. Pour un frère qui est en détruction, il dit livrez-le à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'âme soit sauvée au bout du jugement. Si tu ne perds pas pour salut, tu es sauvé. Mais si tu abandonnes, tu bénis ça le revers de ta main, tu ne crois plus que le sacrifice de Christ, que c'est la confession, quoi que ce soit là. Tu reviens ça de ta main. Puis tu es sauvé. Tu demeures sauvé. Mais comme tu as rendu la parole de Dieu ici. Parce que tu vas passer en jugement. Puis si tu as foulé au pied sans Christ, pour lequel tu as mis des morts, puis que tu as arrêté tes péchés, on va voir en même temps. C'est pour ça que le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge. Et on doit demeurer dans Christ. On doit demeurer dans ce refuge-là qui est Christ. On doit pas pour aller tout l'or au monde. Ou des sauts au pied, leur retourner de son état. Ou abandonner, ou croire autre chose, ou suivre le mouvement, en pensant que tout le monde a raison. Si on entend assez aujourd'hui, là, tout est bon. C'est une double nature. Il y a une chose qui mène à Dieu, c'est Christ. Il faut passer par sa parole, il faut entendre la prédication, et ainsi de suite. C'est les dents de ta vie, et c'est ça qu'il faut respecter.
Amen.
Il fallait que le meurtrier reste dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du sacrificateur. Et un coup que le sacrificateur mourait, il pouvait retourner dans sa maison. Mais comme je vous ai dit la semaine passée, nous, c'est notre sacrificateur, Christ, il est venu, il est mort. Mais parce qu'il est mort, qu'on est dans ce refuge qui est lui, qui est Christ, un jour, nous aussi, on retournera dans notre maison, où il fallait nous préparer une place.
Amen.
Mais en attendant, la parole de Dieu dit que mon souvenir sacrificateur qui est Christ ne meurt plus. On voit ça dans Hébreux 9, verset 12. Et il est rentré une fois pour toutes dans le Dieu très saint, non avec le sang des veaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et Hébreux 6, 19 et 20 nous dit cette espérance, à laquelle on a saisi comme refuge, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre de notre foi, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour tout vous, selon l'ordre de Melchisédek. Si mon souverain sacrificateur qui est Christ ne meurt plus, je dois donc demeurer dans ce refuge qui est Christ jusqu'à ma mort, pour pouvoir aller dans les
mains. Amen.
Tu sais, je dois rester là, je dois rester à ma place. Un jour, ils viendront chercher, soit dans ma mort, soit dans ma lettre. Mais en attendant, là, prenons pas la chance de mettre ça, fouler aux pieds, puis d'abandonner pour suivre un autre mouvement ou d'autres choses, parce que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, pense tout que ça mène à Dieu. Nous, on a la vérité, on a le refuge, mais qu'on y reste. Qu'on y reste, même si c'est pas facile, même si il veut dire, il y a des épreuves, mais qu'est-ce que Christ dit? Et chargez-vous sur moi de tous vos soucis. Prends soin de vous. Et si prends soin de nous, il faut y aller. Il faut aller à lui. Il ne faut pas essayer de nous-mêmes de s'en sortir. Remettons-lui ça entre ses mains. Puis laissez-nous agir. Faisons la volonté de Dieu. Puis en s'occupant des choses de Dieu, de dire ouais, Dieu va arriver pour ces choses-là. Mais si tu te comptes la tête pour ces choses-là, Dieu n'est pas là. C'est tout, il arrive. Et c'est tout, il essaie par tes moyens de t'en sortir. Dieu va t'installer, c'est bon. Ça te l'aider.
Oui.
Mais si tu es renaissant de ses liens, toi, tu t'occupes de lui. Tu t'occupes de son âme. Dieu va tout remplacer ça, ces petites choses-là. Allons voir. à Dieu de nous avoir fait trouver un jour ce refuge
qui est en Jésus-Christ, afin d'échapper au jugement venu sur ce monde. Jean 5, verset 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est ce que le prier avait quand il arrivait dans une ville de refuge. Il était passé de la mort à la vie, parce qu'il n'était pas condamné. Il n'était pas condamné, parce que c'était involontairement qu'il avait tué son prochain, mais Dieu dit, va t'en dans la ville de refuge, par exemple. Si tu ne vas pas dans la ville de refuge, on va le sang, point, c'est fait. On était tous coupables, involontairement, d'avoir un Christ pour que nous péchions. Christ les a pris sur lui, il les a crucifiés à la croix. Rendons gloire à Dieu pour qu'on ait pu saisir ce refuge et qu'on nous un jour. Puis qu'on y reste fermement. C'est compris que Dieu nous garde ensemble jusqu'à temps qu'il nous cherche. Si on entend les prières, qu'on l'offre pas, nous savons que c'est pas facile. Mais compris Dieu qui garde nos vies. Garde nos vies dans ce refuge, là, bien ancré. Puis qu'il y en ajoute d'autres. Parce que si Christ n'est pas nous chercher par notre mort, mais il va nous chercher par l'enlèvement. On quittera ce lieu de passage, puis on retrouvera notre place qu'on avait au début, mais on ne l'a pas vu. Ou ce que l'on était au début, c'était bon vivre, ou si tu marchais dans le jardin, tu vas avec Dieu. On a les conversations aussi dans ce monde. Mais qu'on persévère, qu'on reste dans ce refuge jusqu'à temps que Christ vienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse.